Nostalgie.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté. Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant. Mais il y a faute là! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre! Oh! Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
7 heures sur Nostalgie. Patrice Pavot, tout de suite les infos.
Bonjour Philippe et Sandy, bonjour à tous. Donald Trump appelle à évacuer Téhéran alors qu'Israël et l'Iran continuent leur frappe. Le conclave sur la retraite, François Bayrou propose aux partenaires sociaux une prime pour maintenir les seniors en emploi. La météo, le soleil sera généreux ce matin sur la plupart des régions. Quelques voiles nuageuses sur le nord-ouest. La confrontation armée entre Israël et l'Iran se poursuit pour la 5e nuit consécutive. Échanges de missiles et menaces réciproques continuent. La situation inquiète la communauté internationale. Donald Trump a quitté prématurément le sommet du G7 au Canada, appelant à évacuer Téhéran immédiatement. Dans une déclaration commune, les dirigeants du G7 eux, ont affirmé le droit d'Israël à se défendre tout en appelant à protéger les civils. Ils réaffirment également que l'Iran ne doit jamais disposer de l'arme nucléaire. Le conflit en Ukraine, des frappes aériennes russes ont ciblé Kiev la nuit dernière. Au moins 14 morts, dont un Américains sont à déplorer selon les autorités ukrainiennes. C'est l'une des attaques au bilan le plus lourd depuis le début de la guerre. Les guerres et les crises dans le monde, thème cette année de nombreux documentaires présentés en compétition au 64e Festival de télévision de Monte Carlo. Le jury remettra ses prix ce soir lors de la cérémonie de clôture au Grimaldi Forum. La journaliste et productrice Mireille Dumas préside le jury documentaire et actualité. Elle est au micro de Nicolas Abel.
La sélection de ces documentaires d'actualité, grands reportages, montre ça. C'est montre un monde qui se déchire en pleine crise, la guerre. Je crois qu'on oublie à quel point on est encore privilégié dans ce pays qui est la France. Et vraiment, on regarde tout ce qui se passe. On a eu des visionnages qui étaient assez intenses et on est sorti de tout ça assez bousculé quand même.
Au salon du Bourget, le gouvernement interdit l'accès à des stands israéliens présentant des armes offensives. Cette décision critiquée par Israël comme scandaleuse vise à marquer la désapprobation de la situation à Gaza. Les stands concernés ont été recouverts de bâches noires. Leur installation est obligatoire dans les lieux publics et certaines entreprises, les défibrillateurs, les fameux DAE, sont de plus en plus présents partout en France, environ 100 000 déployés. Leur utilisation permet de réanimer les personnes victimes de malaise cardiaque avec un taux de survie très élevé s'il est bien utilisé. Pourtant, la plupart des appareils ne seraient pas en état correct de fonctionnement. C'est ce que dit Sébastien Yenoulela Thibault Antoine Paulet, président de Locacœur, une société basée à Aix-en-Provence, spécialisée dans la location et la maintenance des défibrillateurs.
On est aux alentours des 60% de défibrillateurs qui sont en défaut de maintenance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sûr que tous ne sont pas en état de fonctionner, mais il y a une suspicion forte comme quoi une grande partie, sinon la majorité de ces défibrillateurs sont non fonctionnels. Parmi ces 60%, environ la moitié ont des consommables périmés. Donc quand on a un consommable périmé, on peut avoir avec beaucoup de chance quelque chose qui fonctionne, mais ce n'est pas garanti. Le plus important, c'est de constater que l'entretien de ce parc qui est au sens littéral du terme vital est totalement défaillant en France, qui pourrait expliquer que la France est quasiment le pays qui a le plus faible taux de survie à l'arrêt cardiaque de tous les pays industrialisés.
La dernière réunion du conclave sur les retraites impulsée par François Bayrou doit se tenir aujourd'hui. Syndicats et patronat tenteront une ultime fois de trouver un compromis, notamment sur l'âge de départ et la prise en compte de la pénibilité. Le Premier ministre, lui, a surpris les partenaires sociaux en proposant à la dernière minute une prime pour les seniors qui choisiraient de travailler au-delà de l'âge légal, mesure qui viserait à encourager l'activité tout en allégeant les dépenses de retraite. En natation, Maxime Grousset continue d'impressionner. Le Français remportait le 100 mètres nage libre au championnat de France à Montpellier avec un temps de 47 secondes 50, le troisième meilleur de sa carrière. La météo, temps calme ensoleillé ce matin sur l'ensemble du pays. Quelques voiles nuageuses sur les bords de la Manche. Les températures 18 à 33 degrés pour les maximales. 18 à Cherbourg, il fera 27 à Metz, à Cannes, 29 à Paris du côté de Nantes, 31 à Toulouse et 32 du côté de Montpellier. Tout de suite, Philippe Sandy sur Nostalgie.
Retrouvez les matins nostalgie avec Côté Particulier, réseau national d'agences immobilières. Côté Particulier, l'immobilier à sa juste valeur.
My baby, nostalgie, nostalgie. Hervé! Quoi ? C'est ta fête !
Voilà, bon, 7h05 sur Nostalgie.
Salut Philippe. Depuis 12 ans, Nostalgie paye vos vacances, votre séjour en famille plein de magie au Puy du Fou. Ça se gagne tout à l'heure à 7h15.
C'est quoi le cours de théâtre que tout le monde fait là ?
Ouais. Florent.
Florent.
Ah, j'ai fait le cours Clément,
Francis,
moi.
Hein.
Cours Jean-Pierre. Voici bah, de la musique pour vous. Allez, ouvrez la fenêtre, chantez. La France en a besoin. Queen, Daniel Balavoine et Kool & The Gang.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see?
On a de la bonne musique pour vous tout à l'heure, notre ami Bruce Springsteen, Madonna et puis Kool & The Gang. J'ai choisi ça ce matin en cassette parce que j'ai vu qu'il y avait un lecteur cassette qui traînait ici.
Bon choix.
Bon choix, c'est Get Down On It.
Partez au travail de bonne humeur avec Philippe et Sandy.
Quelle info incroyable. Un Français sur deux est accro au yaourt. On s'en fout, hein. Mais ça nous a fait parler.
Bah oui, forcément, on a tous notre choix. Moi, par exemple, c'est la danette caramel, tu vois.
Oui, alors attention.
Oui, alors je sais qu'il va y avoir débat parce que c'est une crème, alors c'est pas un yaourt.
Une crème dessert.
Crème dessert, mais c'est au rayon yaourt quand tu passes dans le supermarché.
Qui fait 50 mètres de long. Hein.
Voilà.
Ça, c'est impressionnant, les rayons yaourt. Hein.
J'aime mon yaourt. Alors, juste parce que je précise, parce que je trouve que ça, ce petit côté doux et en même temps un peu granuleux, comme dans les Mont Blanc caramel. Je sais pas, il y a
c'est
un.
C'est quoi
petit...
qui est granuleux ?
Je sais pas, tu passes ta langue.
Regarde. regarde la date peut-être de péremption. Parce qu'un danette avec du granule.
Non.
Il n'y avait pas une petite bestiole avec une grosse queue qui courait dessus là? Parce que ça arrive en ce moment.
Ah oui,
non. Qu'est-ce que t'en penses le danette caramel toi? C'est plutôt yaourt classique.
Moi je suis yaourt classique, c'est yaourt nature brassé. Les danettes c'est crème dessert, donc c'est rayon dessert.
Brassé c'est tourbillonné là?
Ouais, c'est ceux qui sont liquides.
Il n'y a pas de fruits dedans quoi.
On va demander au vieux. Alors,
le vieux, il mange énormément de yaourt. Je suis un peu comme Tom, je suis accro. Mais moi, j'ai encore une particularité. Je suis accro au yaourt avec du pain. Je trempe mon pain dans le yaourt.
Ah ouais?
Et je.
Donc, il achète un jambon beurre. Ouais. Il enlève le jambon.
Le beurre.
Non, mais c'est dingue.
Du pain. Ah non, mais si, mais j'ai converti
ça
tout le monde.
Du pain mouillé.
Ouais, non, mais si, c'est bon.
Voilà,
non,
merci. Voilà.
Ah, c'est bon, c'est bon. Dans votre vie à vous, bizarre. Là, parce que vous êtes des ovnis.
C'est des gens qui ont du goût ici.
Moi, je suis très yaourt Gervais. Ouais. Avec une merguez. Non, mais j'essaie d'inventer des. Tu vois, la merguez froide oubliée.
Oh, c'est bon.
Sur le Weber pendant deux jours. Tout ouvre un perte de lait.
Avec des granulés dessus.
Bah, tu mets les granulés à 110, t'es propre. Un Français sur deux est accro au yaourt. Le goût, la texture, quelle marque? Racontez-nous ça, là, le sujet de ce matin. Balavoine.
Je suis à la retraite dans 11 mois, jamais de la vie je prolonge. Écrit Stéphane, je travaille dans une TPE, je suis cassé, on ne prend pas assez ma pénibilité en compte, je ne veux pas de prime pour continuer, je veux être à la retraite. Voilà ce qu'écrit Stéphane. Olivier lui nous dit, c'est ridicule le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les seniors ne veulent pas bosser, ce sont les entreprises qui ne les embauchent pas. Moi j'ai 58 ans, je viens de galérer 2 ans pour retrouver un job, et puis on propose une prime qui serait donc versée par l'État aux salariés, ce serait encore un gaspillage d'argent public alors qu'on nous explique toute la journée qu'il faut faire des économies, écrit Olivier. Et puis à l'inverse, j'ai Philippe qui nous dit moi je suis à la retraite et je bosse, je continue à faire des livraisons tous les jours alors que j'ai 68 ans, ça fait maintenant 3 ans que je touche en plus ma retraite qui n'est pas suffisante et donc j'ai besoin de continuer à bosser. C'est très bien de donner une prime aux seniors qui bossent. Vous aussi, vous réagissez au 32-16.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi plus prix du SMS. Les ados peuvent télécharger toutes sortes d'applications depuis les App Store, y compris celles qui ne sont pas adaptées à leur âge. C'est pourquoi Instagram demande une réglementation européenne exigeant la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store. Plus d'infos sur instagram.com/accordparental.
Bon, maman, tu la prends cette photo?
Allez. Comme on dit, les grands derrière, les petits...
Allez, zoom!
Le petit oiseau va...
Bon, ok, une dernière.
Dites, Froma!
L'iPhone 16 est chez Free avec sa commande de l'appareil photo pour prendre des photos parfaites plus rapidement que les blagues de votre mère. Et il y a même jusqu'à moins 150 euros sur l'iPhone 16 jusqu'au 29 juin.
Offre soumise à condition, 50 euros de remise immédiate, soit 899 euros au lieu de 949 euros, plus 100 euros de bonus reprise avec reprise d'un téléphone d'une valeur minimum de 10 euros, valable avec le forfait Free 5G et la série Free. Rendez-vous dans votre boutique Free.
Ford Pro.
Allez, patron, j'y vais.
Attendez.
Oui?
Vous êtes branché, Bénodier.
Ah bon, vous trouvez?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-transit custom, Bénodier.
D'accord, donc c'est nouveau.
Bah, oui.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4 696 euros sur le nouveau e-transit custom 100% électrique avec la prime CEE. Ford Pro. Prime CEE en vigueur pour personnes morales éligibles. Voir conditions d'éligibilité sur Ford.fr.
On a tous ce copain, cette cousine, ce voisin qu'on admire parce qu'il donne son sang régulièrement. Et si c'était le moment pour vous d'en faire autant? Oui, si là, tout de suite, vous l'appeliez pour lui proposer d'aller donner votre sang ensemble. En juin, tous unis par le don. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'Établissement français du sang.
Ça ira, chez Citroën, nous on ira. Ça ira, nous ce qu'on veut c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira, des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
pensez à covoiturer.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, qui d'Airbus ou de Boeing va engranger le plus de commandes? C'est toujours la grande question au Salon du Bourget qui a donc ouvert ses portes hier.
Le Salon aéronautique du Bourget, Apolline, il faut le rappeler, c'est le plus grand rendez-vous mondial de l'aéronautique et de l'espace. 2400 exposants venus de presque 50 pays. Pour Airbus et Boeing, c'est toujours effectivement l'occasion d'en mettre plein la vue en multipliant les annonces de grands contrats. 1214 appareils au total vendus lors de l'édition 2023. C'était un record. Et si on prend les 6 éditions tenues depuis 15 ans, c'est presque 40% des commandes totales des deux avionneurs depuis 2010. Donc, et les experts s'attendent cette année à ce que la barre des 1000 commandes soit à nouveau franchie. Alors, première journée remportée par KO, par Airbus, 123 commandes à zéro par quatre compagnies.
123 commandes à Airbus, zéro à Boeing.
Voilà, mais après les jours.
Ça n'est que le premier jour.
Voilà, ça n'est que le premier jour.
Alors, est-ce qu'il y a quand même un impact du crash du Boeing 787 d'Air India? Est-ce que ça peut avoir un impact sur le constructeur américain?
Alors évidemment, c'est un énorme coup dur. L'appareil concerné, le 787 Dreamliner, c'est le gros porteur le plus vendu au monde, plus de 2000 commandes. Il n'avait jamais connu d'accident mortel et présentait un bon bilan en termes de sécurité. Cette catastrophe, elle intervient alors que Boeing semble tourner définitivement la page de la crise du 737 Max, son monocouloir dont les deux crashs de 2018 et 2019 avaient causé 346 morts. La production était en train de remonter en cadence avec des livraisons en hausse de 60% au premier trimestre. Boeing, qui est toujours critiqué comme une entreprise dirigée par des financiers en opposition à Airbus, hein, qui est toujours l'entreprise, elle, plutôt qui a une mentalité d'ingénieur, effectivement, eh bien, commençait à retrouver la confiance de ses clients. Ce rétablissement est aujourd'hui compromis et il est possible d'ailleurs que des compagnies se portent davantage sur le concurrent du 787 de Boeing, qui est justement l'A350
d'Airbus. D'Airbus, évidemment. En fait, le vrai défi pour les constructeurs, c'est aussi d'honorer leur livraison.
Exactement. Hein. Chez Boeing, donc, les investisseurs auront les yeux ailleurs que sur les contrats. Mais chez Airbus aussi, finalement, parce que les carnets de commandes sont pleins. Songez qu'il faut quand même attendre 10 ans aujourd'hui pour la livraison d'un Airbus A320 Max, qui est le best-seller d'Airbus. Et ce que crutent les compagnies et la bourse, c'est surtout la capacité des constructeurs à respecter leurs délais de livraison, notamment sur les petits monocouloirs. Airbus compte parvenir d'ici 2027 à produire 75 avions par mois, cible que la société a repoussée deux fois jusqu'à maintenant. Et donc Airbus va devoir cravacher pour livrer les 820 avions promis cette année, sachant, je vous le rappelle, Apolline, qu'il y aura en 2050 deux fois plus d'avions dans le ciel qu'aujourd'hui.
Et que l'ensemble des aéroports français a retrouvé le trafic d'avant Covid.
Exactement.
C'est fait donc depuis hier. Il est 7h17, on va rentrer dans les coulisses de l'actu.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Avec Solène Leroux du service Société d'RMC. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Solène, de moins en moins d'enfants étrangers sont adoptés en France. Ils étaient plus de 4000 il y a 20 ans. Et seulement 103 l'an dernier. Solène, vous nous apprenez ce matin que ce chiffre va encore baisser cette année.
Oui, en 2025, le nombre d'adoptions internationales va passer sous la barre des 100. L'un des acteurs me confie que ce serait même probablement en baisse de 30% par rapport à l'an dernier. Alors comment expliquer cet effondrement? Ces dernières années, déjà, les futurs parents se tournent plutôt vers la PMA ou la GPA. Le profil des enfants a aussi changé, m'apprend Hélène Lafitte, autrice d'une thèse sur l'adoption internationale. Les enfants qui peuvent être adoptés sont plus grands en fratrie ou porteurs de pathologies graves comme le sida. Mais le déclin remonte à plus loin. Le tout premier déclencheur, c'est en fait la Convention de la Haye de 93. Elle oblige les États à épuiser toutes les solutions avant de faire adopter un enfant à l'étranger. De nombreux scandales dans ces années-là écornent aussi l'image de l'adoption internationale, des enfants présentés comme orphelins, en réalité volés. De quoi rebuter ceux qui veulent adopter eux aussi moins nombreux. En 20 ans, le nombre d'agréments, c'est une des étapes obligatoires pour pouvoir adopter. Eh bien, ce nombre, il a été divisé par 4, me confirme-t-on. Alors, est-ce qu'il sera un jour impossible d'adopter un enfant étranger en France? Plusieurs pays d'accueil ont fait ce choix, comme les Pays-Bas. Ici, ce n'est pas encore à l'ordre du jour officiellement. N'empêche que la France serre un peu plus la vis depuis 2022 avec une réforme. Cette loi a par exemple modifié le nombre d'organismes autorisés à gérer les adoptions. D'une vingtaine, ils sont passés à 7.
Solène Leroux du service Société d'RMC. Il est 7h19. L'histoire qui raconte l'actualité, c'est dans un instant avec Arthur Chevalier qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, notre avenir dépend-il de la technique? La vérité est-elle toujours convaincante? Ou encore, avons-nous besoin de l'art? Voilà les questions du bac philo dont les épreuves ont eu lieu hier. Le baccalauréat, c'est un diplôme qui a plus de 200 ans, c'est ça?
Oui, ça date de juste après la Révolution française et j'ai un scoop pour vous. Ça n'était pas beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui.
Et puis, il y aura aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir. Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et ce qui est offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre 100 euros pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité ELEC référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, cette semaine, c'est le début du baccalauréat pour les terminales. Ça a commencé hier avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Pour vous, le bac, ça reste un diplôme vraiment important.
Oui Apolline, le bac, c'est la preuve que notre école n'a pas oublié sa promesse, hein, c'est-à-dire celle de donner sa chance à tout le monde. Alors, évidemment, dit comme ça, ça a l'air de rien, mais quand ça a été créé, le bac, c'était une véritable révolution.
Ça date de quand, le bac?
Eh bien, ça date de juste après la Révolution française. À cette époque, on veut refonder totalement l'école et la France pour que l'une et l'autre soient performantes. Donc, on crée d'abord des écoles pour former les élites. Hein. Par exemple, l'école polytechnique pour avoir de bons militaires ou encore le Conservatoire national des arts et métiers pour avoir de bons ingénieurs. Mais on laisse de côté le reste et notamment le secondaire. Pas de panique. Napoléon arrive et évidemment va s'occuper de tout.
Bien sûr.
En 1808, il crée donc le baccalauréat.
Ça ressemblait à ce qu'on connaît aujourd'hui?
Alors pas vraiment. Première différence, on ne passait pas le bac à la sortie du lycée, mais après les premières années de faculté. En fait, c'était une sorte de grade universitaire. Ça permettait d'accéder aux études les plus prestigieuses, comme le droit, la théologie ou la médecine. La première session du bac a lieu en juillet 1809. Aucune épreuve écrite et surtout très peu de candidats, 39 seulement.
39 candidats au premier bac. J'imagine qu'à l'époque, le bac, c'était beaucoup plus sélectif.
Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Contrairement à une idée reçue, le baccalauréat n'était pas plus difficile qu'aujourd'hui. Le plus dur, c'était surtout d'y arriver. En tout cas, on l'avait facilement. Chiffre à l'appui, Apolline. Début 19e, entre 90 et 95% des candidats l'obtenaient. Si vous voulez comparer, le taux de réussite du bac en 2024 était de 91,2%. Donc c'était plus. Maintenant, vous savez quoi répondre quand on vous dit que les jeunes sont devenus idiots.
Et ça va évoluer?
Oui, le concours va devenir de plus en plus difficile. Le nombre de candidats augmente, hein, lui aussi. Quoique, en 1890, ils sont seulement 7000 à passer le bac. L'écrasante majorité vient de la haute bourgeoisie. Donc oui, c'était une épreuve très élitiste et très masculine. La première fille à avoir le bac, ça date seulement de 1861. Et rendons-lui hommage, elle s'appelait Julie Victoire d'Aubier.
Victoire ! Et ça va se démocratiser donc ?
Lentement, très lentement, Apolline, en 1926, ils ne sont encore que 37 000 bacheliers. Et alors les critiques sur le bac ne sont pas nouvelles. Hein. Déjà dans les années 30, tout le monde s'inquiétait de la baisse du niveau, évidemment. C'était la catastrophe, la France était morte. Bref, exactement comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui, on disait que c'était mieux avant.
Voilà.
Alors en fait, le niveau du bac, c'est pas ça le problème.
En tout cas, c'est pas ça seulement le problème. À partir des années 1950, on fait tout pour qu'un maximum d'élèves aillent à l'école, et de plus en plus longtemps. Donc logiquement, le bac a suivi la tendance. Que de plus en plus d'élèves l'obtiennent, c'est tout à fait logique. Si on parle du niveau scolaire des élèves en général, c'est un autre débat. On pourrait d'ailleurs parler du niveau scolaire des adultes. N'oublions pas que toutes les générations ont l'impression que c'était mieux hier. En réalité, c'était juste différent.
Merci beaucoup, notre historien du matin, Arthur Chevalier. Il est 7h24. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud. Arnaud qui demange le... Qui... Alors, Arnaud Demange,
Arnaud
pirate.
Je vais vous demancher le face-à-face,
Arnaud qui
moi.
Pirate le face-à-face. Le face-à-face à 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV. Ce sera le spécialiste des questions de défense et de sécurité, Alain Bauer.
Oui, Alain Bauer qui est romancier aussi. Hein. Il a sorti ses premiers bouquins d'espionnage, Opération Zelensky et Menace sur Taïwan. C'est le retour des bons vieux polars, ceux avec une couverture où il y a une fille à poil qui caresse une mitraillette, que Manu le Chypre ado cachait sous son lit et qui avait des titres comme Panada Panam ou Avani en Albanie. Tiens, on va faire un petit
coup de
boule
à Istanbul.
Voilà, je vais vous donner des titres de l'époque. Vous me dites s'ils sont vrais ou faux. Attention, Interlude aux Bermudes.
Oui.
Vrai. Ouais. Oh. Les nazis en Asie.
Non.
Alibi en Libye.
Ah, oui. Bah ça pourrait.
Oui.
Ah,
oui. Du sang chez les Afghans.
Oui.
La vie est une chienne chez les Cheyennes.
Non.
Bref, il y en avait plein. Et Alain Bauer renoue avec cette tradition. Et en plus, quand on lit les livres, on reconnaît entre les lignes qu'Alain Bauer s'est mis dans la peau du héros. Découvrez le nouveau roman d'Alain Bauer. On finira pas vieux comme Mathusalem à Jérusalem, c'est le titre. La ville se déchire entre ceux qui soutiennent Netanyahou et ceux qui veulent le voir partir. Un criminologue sexy, jouant subtilement du combo cravate-moustache, décide d'intervenir en séduisant la maîtresse du Premier ministre israélien. Il espère mettre la main sur les photos de ce dernier en slip en cuir, qui sont la seule raison pour laquelle il s'accroche au pouvoir, malgré la contestation grandissante chez son peuple et dans le monde. Sa mission accomplie, Alain épouse la jeune femme et lui fait plein de bébés moustachus. Je commence léger parce que bon, il faut le détendre là, Alain Bauer. En ce moment, le pauvre, il doit être en burn-out, le malheureux. Guerre en Ukraine, à Gaza, meurtre d'une surveillante à Nogent, émeute à Los Angeles, guerre Israël-Iran. L'actu pour lui, c'est le multiplex de Ligue 1. Et là, et un tir à Téhéran.
Oh là là, excusez-moi messieurs, on part à Tel Aviv où les Iraniens viennent d'envoyer un véritable missile sur leurs adversaires.
Pardon Pierrick, je vous coupe, on part à Gaza où c'est le siège, là aussi des tirs, en veux-tu, en voilà. Bref, c'est compliqué pour lui, mais Alain Bauer, il a dirigé le Grand Orient, du coup pour le Moyen-Orient, ça devrait être jouable. Donc. Bref, il donne de la tête sur tous les sujets, il est surmené, ses copains le voient plus, ils se demandent, il est où le Bauer, il est où? Il est là, il est où le Bauer, il est où? Eh bien, il est avec vous, Apolline, et c'est à 8h30.
Tout à fait juste.
À tout à l'heure.
Donc, c'était Arnaud Demange, bien sûr, et vous l'avez compris, ce sera Alain Bauer à 8h30. Entre-temps, Arnaud Demange revient nous voir, bien sûr, à 8h20. Il est 7h26, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, tiens, fumée blanche aujourd'hui, après la fin du concours.
Sans plus, même source.
Alors, sur le...
Ils ont vraiment une visibilité presque complète de l'organe.
La météo.
Bonne journée. Oh oui, il a raison, je peux le rappeler.
28 degrés à Saint-Étienne, Nancy,
Les petits.
petits concerts. Les enfants seront aussi contents.
En tout cas, ce changement était à prévoir.
Trajet auto, conditions sur 123parbrise.fr.
De catétérisme artériel, par exemple, qui sont des petites canules.
En même temps, on s'accroche à ce qu'il y a de vivant. Si jamais le pire doit survenir, de toute façon, il restera le don d'organes. Et donc, elle continuera à vivre d'une manière ou d'une autre. Et heureusement qu'on en avait parlé 5 jours plus tôt, parce qu'au moment où on nous annonce la mort de notre enfant, le monde s'écroule. Enfin voilà, on s'était interrogés, on était d'accord tous les deux, il nous restait juste à en parler avec les enfants. Et pour nous, en parler avec les enfants était une formalité.
Les organes d'Alice bénéficieront à 6 receveurs à travers toute la France. Une façon pour Florence Boudet de donner du sens à la perte de sa fille.
Il y a 6 mamans qui ne connaissent.
Une anime a été adressée à la préfète pour demander.
It's all good to... 28 à Paris, La Rochelle, Toulouse.
Monsieur l'arbitre !
Oh ! L'achat est dans la limite de 40 euros.
Pour les travaux isolés, un revient.
Commencer à bosser depuis plusieurs heures.
Patronat et syndicat aujourd'hui.
Fabricante depuis 1985. Collière.com.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De quel côté va pencher la balance? Ultime étape pour le concours.
Mais avant cela, on commence par le Salon du Bourget à la recherche de main-d'œuvre.
C'est l'un des enjeux en plus de celui des contrats, car il faut bien les construire, ces avions vendus. Or, 25 000 postes sont à pourvoir dans le secteur. Trop peu d'ingénieurs, trop peu de techniciens. Les retards s'accumulent, alors les compagnies se tournent vers les retraités, Zoé Pallier.
Après 40 ans passés à concevoir des satellites chez Airbus, Michel Frézé a pris sa retraite. Mais depuis, il effectue quelques missions ponctuelles dans des start-up de l'aérospatiale.
C'est de l'accompagnement, c'est dans quelques cas des rédactions directes de documents, mais c'est plutôt de la relecture, des conseils stratégiques.
Il transmet bien sûr ses compétences techniques, mais aussi sa connaissance du secteur, de ses acteurs et de la réglementation.
J'utilise mon expérience pour faire en sorte que les projets qui sont très très beau sur le papier au début, puisse aller un peu moins vers le papier, un peu plus vers quelque chose qui va voler dans l'espace.
1300 retraités de l'aérospatiale comblent aujourd'hui les besoins des entreprises et de leurs jeunes dirigeants. Laure Gaillère, directrice du développement au sein du cabinet Expert Connect.
C'est toute une génération d'ingénieurs, de techniciens qui n'ont pas connu le développement des grands programmes aéronautiques qui ont démarré dans les années 70 et qui ont donc ce besoin d'avoir recours à des anciens pour pouvoir ne pas tomber dans les écueils dans lesquels eux-mêmes sont tombés.
Certains retraités interviennent aussi dans des écoles pour faire découvrir le secteur de l'aérospatiale, car c'est un des freins au recrutement. Plus d'un jeune sur deux connaît mal la filière et ses métiers.
Et les retraites, justement, c'est la dernière journée prévue de négociations entre syndicats et patronats. La CPME propose des points d'usure pour les salariés qui portent des charges lourdes, pour des formations ou encore des reconversions.
Les retraites, on en reparlera avec l'invité de 8h15, Hakim El Karoui. Donald Trump a quitté le G7 au Canada prématurément.
Mais ça n'a rien à voir, dit-il, avec un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël qu'il évoquait pourtant lors du G7. Le président américain a aussi appelé les habitants à évacuer Téhéran, la capitale iranienne. Et dans le même temps, il a donc proposé un accord de cessez-le-feu. C'est ce qu'a fait savoir Emmanuel Macron. Mais à l'instant, Donald Trump reproche au président français d'avoir présenté de manière erronée ses intentions juste avant la publication d'un communiqué commun du G7. Qui s'oppose à ce que l'Iran possède l'arme nucléaire. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont d'ailleurs appelé l'Iran à négocier car cette guerre déstabilise le régime iranien. Tuer l'ayatollah Khamenei mettrait fin au conflit, dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mais ce serait une erreur, selon Emmanuel Macron.
Je pense que tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes et que tous ceux qui ont voulu, par le passé, changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques. Et je ne pense pas que ce soit à des puissances étrangères de changer les régimes politiques en cours. Quand j'ai eu le Premier ministre Netanyahou vendredi, Il m'a dit que ce n'était pas son objectif stratégique.
En attendant, la guerre continue. De nouvelles alertes entendues cette nuit en Israël. La population qui doit se protéger, car le dôme de fer, le système antimissile, n'est pas infaillible. Les touristes français cherchent à quitter le pays, mais l'espace aérien est fermé et aucune évacuation des ressortissants n'est prévue à ce stade. Caroline Yadan est députée Renaissance des Français d'Israël.
Je reçois des dizaines et des dizaines de demandes. Il y a des personnes qui m'appellent en pleurs, complètement paniquées à l'idée de ne pas pouvoir rentrer. Et malheureusement, je ne peux pas leur dire grand-chose que inscrivez-vous sur le fil d'urgence du consulat pour être identifié. Lorsque un État est en guerre, le ministère des Affaires étrangères se doit normalement d'organiser ce type de rapatriement, lequel avait organisé par exemple au moment du 7 octobre des rapatriements collectifs. Il faut que ça se passe le plus rapidement possible parce qu'il y a vraiment des demandes d'urgence. Même s'il n'y a pas de vol, ces rapatriements peuvent se faire via la Jordanie, par exemple en bus, pour ensuite prendre des vols à partir d'Aqaba, par exemple.
Caroline Yadan avec Lauriane Toulmont. Autre conflit en Ukraine, la rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, prévue aujourd'hui au Canada pour le G7, n'aura donc pas lieu puisque le président américain est rentré à Washington. Cette nuit, 14 personnes sont mortes à Kiev dans des frappes russes.
Et vous écoutez Radio Classique, 7h35, le dispositif MaPrimeRénov est finalement maintenu.
La suspension annoncée a provoqué la colère du secteur, annoncée à cause d'un engorgement de dossiers et d'un risque de fraude. Augustin Lefebvre, le dispositif est en fait que partiellement maintenu.
Oui, pour les travaux isolés, ce que le gouvernement appelle les monogestes, concrètement l'isolation de combles ou le remplacement d'une chaudière au fioul par exemple. L'aide obtenue est en moyenne 10 fois moins importante pour ces gestes que pour les travaux d'ampleur, et c'est pour cela que le dispositif va être suspendu pendant l'été afin de lutter contre la fraude qui représenterait environ 50 millions d'euros selon le ministère de l'économie. Cette suspension devait avoir lieu au 1er juillet, mais selon les informations du Parisien aujourd'hui en France, elle pourrait être avancée à la fin de la semaine car le nombre de demandes a doublé depuis l'annonce de cette pause. Plus globalement, le gouvernement réfléchit à resserrer MaPrimeRénov en la recentrant sur les logements les plus énergivores ou en baissant le plafond des travaux subventionnables car l'enveloppe budgétaire annuelle actuelle ne suffit pas, elle est épuisée en 9 mois seulement.
Augustin Lefebvre, à l'Assemblée nationale, la loi simplification est menacée, un texte au parcours chaotique et au contenu largement modifié qui a abouti à un vote sur la suppression des zones à faible émission. Les députés macronistes vont voter contre aujourd'hui. En cas de rejet, elle fera l'objet d'une négociation entre députés et sénateurs. Les obsèques de la surveillante tuée la semaine dernière ont lieu aujourd'hui à Nogent, en Haute-Marne. Obsèques dans l'intimité familiale, alors que l'adolescent, le suspect du meurtre, est mis en examen. Il est décrit comme détaché face à son acte par le procureur. Un manque d'empathie pointé du doigt par certains pédopsychiatres. C'est le cas de Serge Fès de la Pitié-Salpêtrière.
Ils sont très seuls, les jeunes. Ils sont dans leur chambre, ils sont devant leur écran, ils interagissent de moins en moins avec les autres. Pour savoir ce qu'on ressent et savoir ce qu'on éprouve, on a besoin d'être connecté aux autres et d'être dans cette espèce de renvoi permanent entre ce qu'on ressent et ce que ressent l'autre. Et ça, ça se perd évidemment devant les écrans parce qu'on n'a pas d'empathie avec un écran. Certes, on ressent des émotions devant un écran, mais les émotions, si elles ne sont pas partagées, elles tournent en rond. Elles ne nous permettent pas un essor personnel. Même la joie, par exemple, si vous l'éprouvez tout seul, elle s'envenime très vite. On ne sait pas quoi en faire. Et alors la colère, évidemment, encore plus. Et c'est comme s'ils n'avaient pas conscience de la douleur qu'ils peuvent provoquer.
Serge Fès avec Rémi Pfister. Les écrans où la publicité est permanente, bientôt sur WhatsApp, alors que c'était jusque-là exclu depuis le rachat par Meta en 2014. On ne sait pas quand les changements seront mis en place, mais l'entreprise promet que ce sera discret, Marine Salaville.
La publicité ne devrait apparaître que dans l'onglet Actu, en bas à gauche sur WhatsApp. Cet onglet recoupe les chaînes des conversations à plusieurs milliers de participants sur un sujet précis. Désormais, des entreprises pourront payer pour mettre leur chaîne en avant. Dans cet onglet aussi les statuts des postes qui disparaissent au bout de 24 heures. Là aussi, des publicités pourront s'intercaler, car 2 milliards d'utilisateurs mensuels, c'est une manne financière énorme, explique Jean-Nicolas Robin, avocat spécialiste du numérique.
Ça coûte très cher à Meta, le chiffrement de bout en bout. Et donc, l'orientation que prend WhatsApp, c'est je continue à vous garantir de la sécurité. En contrepartie de quoi ? Finalement, je n'ai presque pas le choix de vous mettre de la publicité parce que c'est une partie de mes revenus. On parle de millions, voire de milliards de dollars sur les quelques années à venir.
D'ailleurs, Meta pourrait être tenté d'aller plus loin, selon Jean-Nicolas Robin.
À un moment donné, WhatsApp va devoir cibler sa publicité. Si je suis un célibataire sans enfant, je n'aurai certainement pas la même publicité que si j'ai 3 enfants en bas âge. Donc, rien que sur ces critères-là, il va y avoir certainement soit une collecte de données, soit une collecte de profils.
Il faudra donc surveiller les prochains changements, conclut l'avocat, car si WhatsApp se met à collecter des données personnelles, il devra se soumettre aux réglementations françaises et européennes sous peine de sanctions.
Marine Salaville, c'est l'un des classements attendus et décortiqués par les gastronomes, le classement de la liste publié hier et qui récompense entre autres les talents de la pâtisserie. 36 chefs sont distingués, la moitié sont des femmes et dans la catégorie goûter, Nina Valette, c'est une Française qui a été primée, c'est Jessica Préapalto.
C'est une création en plusieurs étapes qui vient de remporter cette catégorie qui nous fait toutes et tous saliver, celle du goûter. Jessica Préapalto nous décrit sa recette.
Alors, vous avez le droit à une infusion, donc développée pour le goûter en fonction des ingrédients. Et ensuite, il y a trois étapes. Donc, la première étape, c'est une expérience de scone avec différents scones et des choux au sarrasin. La deuxième étape, c'est un dessert à l'assiette sur des fruits de saison, actuellement la fraise à spirule odorante et une tarte à la rhubarbe avec du cresson. Et la troisième étape, meilleure pour la fin, c'est un gâteau au chocolat un peu fermenté, mi-cuit, avec une glace au lait creux.
Cette récompense est une véritable fierté pour la Landaise, mais aussi pour l'équipe de l'hôtel Saint-Régis dans le 8e arrondissement de Paris, qui propose donc cette gourmandise. Une gourmandise qui a nécessité 6 mois de travail avec des producteurs sélectionnés dans toute la France.
C'est un vrai cadeau. On se dit que voilà, on ne fait pas tout ça pour rien, parce que des fois, ça prend du temps. On voit bien que sur le marché, certains ne prennent pas non plus toujours la peine de travailler avec des petits producteurs. Et on se dit, est-ce qu'on voit vraiment une différence, mais en tout cas nous on l'aperçoit quand on goûte les produits et je pense que dans le monde de la pâtisserie c'est une belle reconnaissance, peut-être que ça va nous amener des curieux qui auront envie de venir découvrir ce moment de parenthèse parce qu'en plus c'est dans un hôtel qui est assez magnifique.
Un goûter qui a un prix compté 65€ et jusqu'à 85€ par personne si vous prenez la coupe de champagne.
Et le pâtissier le plus créatif du monde est aussi français, il s'agit de Maxime Frédéric, chef pâtissier du Cheval Blanc à Paris et qui a aussi sa propre boutique, elle s'appelle Plein Cœur et elle est aussi à Paris.
Vous nous avez donné fin, Charles, avec ce sujet. On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. Dans 2 minutes, l'écho du monde. L'Iran peut-il résister longtemps aux capacités militaires et aux frappes israéliennes? Précision à suivre de Christian Macarian, Radio Classique, 7h40.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis bien. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Et avec AJP, retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon chaque jour à 17h sur Radio Classique.
Renault. Professionnel, vous hésitez à passer à l'électrique? Avec une autonomie jusqu'à 460 km et une charge utile jusqu'à 1625 kg, Renault vous accompagne dans votre transition avec sa gamme d'utilitaires e-tech électriques assemblées en France. Découvrez Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master. En ce moment, l'électrique est au prix du diesel.
Master selon version, cycle WLTP. Véhicule utilitaire électrique neuf au même loyer que leur équivalent en version diesel pour contrat de crédit bail si accordiaque. Offre non cumulable réservée aux professionnels du 1er au 30 juin. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Vous avez plus de 50 ans et cherchez à financer un projet ? Hippo, leader du crédit hypothécaire, vous permet d'utiliser votre patrimoine détenu comme levier de financement. Ainsi, Jean-Pierre, 65 ans, a pu acheter son locatif à Nice grâce à un crédit sur 20 ans sans mettre d'apport et sans avoir à souscrire à une assurance. Vous avez besoin de financer des projets IMO ou de trésorerie ? Appelez-nous au 01 89 62 38 10 ou rendez-vous sur www.hippo.imo. Hippo, la finance patrimoniale.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
À 7h41, c'est l'heure de l'écho du monde avec Christian Macarian. Bonjour Christian.
Bonjour David.
Depuis les frappes dites préventives menées par Israël vendredi dernier contre l'Iran, l'escalade entre les deux puissances régionales ne cesse de croître. Entre missiles balistiques, réseaux d'alliés et équipements parfois obsolètes, quelles sont les capacités militaires de l'Iran et combien de temps ce pays peut-il résister et tenir?
Écoutez David, vraisemblablement pas très longtemps. En vérité, au rythme de consommation actuel, c'est-à-dire 150 missiles par jour, et compte tenu du stock supposé ou présumé dont dispose l'Iran pourrait tenir au rythme actuel de bombardement qu'il effectue sur Israël, bombardement d'ailleurs aveugle avec beaucoup de déperditions de missiles, eh bien il pourrait tenir tout au plus un mois. Ce qui est assez peu. Mais ça supposerait que l'Iran observe le rythme qu'il applique aujourd'hui, en ce moment même. Il peut choisir une vitesse plus lente et garder sûrement le meilleur pour la fin, entre guillemets. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'Iran n'a sûrement pas utilisé ses missiles les plus précis et les plus à longue portée, les missiles balistiques. Donc, il faut quand même rester prudent. Quand je fais état du chiffre de 3000 missiles, c'est la dernière évaluation officielle américaine de 2022.
Alors, il y a eu la neutralisation d'un certain nombre de responsables militaires de haut rang. Est-ce que ça peut retarder, gêner le planning de contre-attaque de l'Iran?
Alors, une vingtaine d'officiels et de chefs de services de sécurité et de militaires de très haut rang ont été effectivement éliminés. Ils ont des adjoints. Il ne faut pas trop spéculer sur cet aspect-là, en tout cas dans l'espace militaire. Sur ce qui concerne le nucléaire, effectivement, quand on élimine un scientifique, c'est plus difficile de le remplacer.
Christian, on a beaucoup parlé des proxys de l'Iran qui ont été à petit mis au pas ou neutralisés ou anéantis par Israël. Mais l'Iran a-t-il des alliés? Et quel pays pourrait venir à son secours?
Alors, ce qui est frappant, c'est que, bien sûr, il a des alliés, au premier rang desquels la Russie, puis bien sûr la Chine, mais il y en a d'autres auxquels on pense moins. L'Inde, qui est un très gros client de l'Iran, bien sûr, et un gros fournisseur. Il y a aussi le Pakistan, qui a effectué, apparemment, on a cru déceler ça, d'après les services américains, des livraisons récemment, dans les derniers jours, peut-être même du matériel militaire. Il y a aussi, évidemment, la Corée du Nord, et puis d'autres États africains qui sont lointains. Mais l'addition de tout cela est quand même assez frappante. Est-ce que vous avez vu les Chinois ou les Russes se mobiliser pour l'Iran? Ce qui est très frappant, c'est justement que non.
Et pas plus qu'ils se sont mobilisés pour le Hezbollah
non,
ou le Hamas.
Non, tout à fait. Mais la Russie, ça peut s'expliquer par le fait qu'elle soit embourbée en Ukraine. Mais pour la Chine, il s'agit vraiment d'un pays qui veille à ses intérêts et qui n'a aucune envie de prendre part à ce conflit.
Est-ce que pour autant les Iraniens vont aller à la table de négociation? C'est ce dont rêvent Donald Trump et surtout les membres du G7. Emmanuel Macron en premier.
Alors ça, c'est beaucoup plus subtil. L'Iran manie la carotte et le bâton dans ce qui lui reste de marge de manœuvre. L'Iran menace de sortir du TNP, du traité de non-prolifération, dont il est signataire depuis 1968 et qui est entré en application en 1970. Ce serait très embêtant parce qu'évidemment, on ne contrôlerait plus rien. Mais, de notre côté, des sources arabes font état de négociations secrètes. L'Iran souhaiterait évidemment que des pays comme le Qatar lui servent d'intermédiaire et aille parler à Donald Trump dans un sens plus positif. Donc on voit bien que la balle revient dans le camp de Donald Trump, c'est lui qui a la main sur cette négociation, et ça explique en partie d'ailleurs le relatif silence de Donald Trump, un homme qui s'exprime autant et de façon aussi tapageuse sur ce dossier est étonnamment discret. Il y a une partie encore à jouer, et le monde retient son souffle, parce que c'est peut-être la dernière carte avant des événements encore plus graves qui embraseraient tout le monde.
Donald Trump qui a quitté le G7 hier, précipitamment justement pour gérer cette crise.
C'est un indice.
Christian Macarian pour l'Écho du Monde, merci, je vous dis à demain. À suivre le journal imprévisible consacré à une figure de la littérature, de ce qu'est la littérature, Jean d'Ormesson. Il aurait eu 100 ans cette semaine. Radio Classique, 7h46.
Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier? Cegid innove pour élever la performance des entreprises et leur permettre de préparer l'avenir avec confiance. Chaque mercredi à 7h59 sur Radio Classique, retrouvez les dernières innovations pour la gestion d'entreprise avec Cegid et Fabrice Lundy.
Cuisine Ixina présente son offre, jusqu'à 6 électros offerts.
Ah super!
Oui, enfin c'est maintenant ou jamais. Hein.
Eh bien je pars, là tout de suite.
Exemple, moi je connais bien un quartier, entre autres, qui a été touché par des bombardements, par des frappes, et dont un hôpital qui a été aussi touché. Donc vous voyez bien que c'est vraiment la peur au quotidien que subissent les Iraniens du fait de cette guerre.
Vous évoquiez la guerre Iran-Irak, un conflit terrible qui avait débuté peu après la prise de pouvoir par l'ayatollah Khomeini, donc prise du pouvoir en 1979, début de la guerre d'Irak en septembre 1980, une guerre qui a duré 8 ans, une guerre absolument épouvantable. L'idée était, le leadership sur le Moyen-Orient que se disputaient l'Iran et l'Irak à coup de fracture entre sunnites et chiites, avec un bilan probablement 1 million de morts. Et moi, je me souviens d'enfants qu'on utilisait pour faire exploser les mines sur les champs de bataille.
Absolument. C'est effectivement l'armée de Saddam Hussein qui a attaqué l'Iran en septembre 1980, pensant que l'armée du Shah, qui était l'armée la plus puissante du Moyen-Orient à l'époque du Shah, n'existait plus. Et du fait de la révolution, la désintégration de l'armée, l'armée du Shah. Et donc, Saddam Hussein pensait que c'était un bon moment d'attaquer l'Iran. Et il revendique en fait le sud-ouest de l'Iran, donc la région pétrolière de Khuzestan. Mais il comptait sur les Arabes iraniens. Les Iraniens se sont battus contre l'armée irakienne, y compris les sunnites iraniens, y compris les Arabes iraniens, parce qu'ils se sentent iraniens. Et donc jusqu'en 1982, où des parties effectivement ouest et sud de l'Iran étaient occupées par l'armée irakienne. Je vivais à Téhéran à cette époque et on était bombardés aussi par l'armée irakienne. On voyait des avions irakiens. Et à cette époque-là, il n'y avait pas moyen pour le régime d'arrêter les avions irakiens.
Les choses ont changé. Clément Terme, on a établi un duplex avec vous. Vous êtes historien des relations internationales et spécialiste de l'Iran. On parle d'un conflit asymétrique, puisque Israël a aujourd'hui la maîtrise du ciel. Mais conflit asymétrique, ça ne signifie pas qu'Israël atteindrait ses buts de guerre. D'ailleurs, quels sont les buts de guerre, selon vous, aujourd'hui, pour le gouvernement israélien ?
Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Les buts de guerre sont a priori la destruction d'abord de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Donc les responsables militaires qui sont en charge de la décision de tirer les missiles et les drones sur l'État d'Israël. Le deuxième but de guerre, c'est la destruction des installations nucléaires. Et le troisième but de guerre, qui semble apparaître aujourd'hui compte tenu des cibles de ces dernières heures, les quartiers de la police, le ministère des Renseignements. Le chef des renseignements des gardiens de la Révolution a également été éliminé, ainsi que des institutions de la télévision. On pense de plus en plus à des cibles qui expriment un objectif politique du changement de régime, parce que pour Israël, le seul résultat positif, un effet final recherché positif, serait un changement de régime, parce que en l'état, s'il y a une négociation, que la guerre s'arrête, le risque pour Israël que la République islamique d'Iran, qui survivrait, court à une accélération de son programme nucléaire est très élevé. Donc ça dépendra des États-Unis. Finalement, la fin de la guerre et la capacité d'Israël à atteindre ses buts de guerre dépend de la politique de Donald Trump.
Bon, on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de ces buts ont été atteints. Je parle en matière de maîtrise de l'espace aérien, avec, semble-t-il, une action attendue des États-Unis. Je ne sais pas très bien comment interpréter les propos de Donald Trump, puisque celui-ci a évoqué le fait que les habitants de Téhéran devraient se déplacer. Comment interpréter ça, Clément Terme ?
Oui, tout à fait. Donald Trump, en fait, soutient et participe à la défense d'Israël. Donc Israël peut compter sur ses alliés américains, mais pas seulement. Il peut compter sur le Royaume-Uni, la France également, est prête à agir en tant
qu'allié. Est-ce que c'est la défense d'Israël ou est-ce que c'est l'attaque de l'Iran ?
Jusqu'à aujourd'hui, c'était la défense d'Israël principalement. Par contre, sur l'aspect offensif, à mon avis, ça va dépendre aussi de la réponse diplomatique des autorités iraniennes. On a vu que le guide suprême, Ali Khamenei, le 4 juin, a refusé la proposition américaine et, ce faisant, a ouvert la porte, la possibilité à Israël de cette action militaire. Donc si les débats qu'on entend aujourd'hui, on entend à la fois que le régime ne va pas négocier tant que les opérations militaires israéliennes ne sont pas terminées, et en même temps, si le régime pense que sa survie est menacé, il peut soit être amené à négocier, soit vouloir étendre le conflit aux bases militaires américaines dans la région, et donc aux États de la région, et aussi la possibilité, la dernière possibilité en cas de sentiment de début de la fin, ça serait de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc il y a aussi cette possibilité, c'est peut-être l'action américaine qui va déterminer, avec aussi la capacité au compromis de la République islamique, l'avenir de cet affrontement militaire.
Azadeh.
Oui, je voulais dire que quand Clément, bonjour au passage Clément, dit que Khamenei n'a pas accepté la proposition américaine, c'était quoi cette proposition? Les États-Unis imposaient aux Iraniens de ne plus enrichir l'uranium à l'intérieur du pays, mais en contrepartie, ils ne proposaient pas de lever les sanctions américaines avec des effets extraterritoriaux qui ont été décrétés, comme vous le savez, par Donald Trump dès 2018 lorsqu'il a déchiré l'accord sur le nucléaire, l'accord international sur le nucléaire, JCPOA, et qu'il en est sorti. Donc en fait, les Iraniens n'avaient pas reçu de contrepartie à ce que demandait Donald Trump. Et je pense que c'est Donald Trump, si on cherche des fautifs, qui a tergiversé, qui a changé d'avis. Au début, Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, disait 3,5% d'enrichissement de l'uranium, c'est OK. Et puis après, sous la pression de Netanyahu et aussi peut-être de Trump, il est revenu pour des non, zéro enrichissement. Les Iraniens ont dit, oui, qu'est-ce qu'on va recevoir en contrepartie? Ben, zéro, rien.
Clément Terme.
Oui, tout à fait, que la politique de pression maximale de Donald Trump ne soit pas une politique de compromis est évidente, mais le 4 juin, c'est un discours de haine vis-à-vis des États-Unis et d'Israël. Il a même répondu au président américain par le slogan de Barack Obama, « Oui, nous pouvons, yes we can, enrichir l'uranium ». Donc il y a cet aspect jusqu'au boutiste de la République islamique.
J'aimerais pas qu'on entre dans une querelle de pourcentage, mais moi j'avais retenu le pourcentage de 60% qui est aujourd'hui atteint avec 408 kilos de combustible. Et alors, donc ces 60% étaient un stade a priori acceptable si l'Iran décidait, ou acceptait plus exactement, de rentrer à nouveau en négociation dans cette période de 60 jours. Est-ce que j'ai bien retenu la leçon ?
Oui, 3,5% en fait. C'était l'accord qu'Obama avait conclu en 2015. Et c'est en fait les paramètres qui sont possibles dans le cadre de ce que la République islamique d'Iran peut accepter, ou même un autre régime, puisque le Shah d'Iran aussi avait un programme nucléaire très ambitieux. Le problème n'est pas technique. Le problème est lié aux ambitions idéologiques de la République islamique, les cris qu'on a entendus, mort à l'Amérique, mort à Israël, pendant ce discours, qui sont des cris qui datent de 1979, des slogans. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a une inadéquation entre ses ambitions idéologiques et les capacités militaires du pays. Et donc on voit que ce régime est prêt pour sa survie idéologique à la destruction de l'Iran, tout simplement. Parce que bien sûr que ce n'était pas un accord favorable, mais dans le contexte de l'affaiblissement de l'axe de la résistance et de la politique de Netanyahou qu'on connaissait déjà, puisqu'on avait vu les opérations israéliennes en Palestine, on avait vu en Syrie, on avait vu aussi au Liban, il y avait quand même, pour un dirigeant d'un pays qui défend les intérêts nationaux de son pays, et compte tenu aussi des déclarations israéliennes, des menaces de frappe israélienne et du président Trump, qui a menacé plus d'une douzaine de fois que si la République islamique n'acceptait pas la proposition américaine de frappe, il y avait quand même cette compréhension des enjeux qui aurait pu aboutir soit à un accord intérimaire ou un accord temporaire, une feuille de route en fait finalement. Et au contraire, il y a eu ce refus du 4 juin. Et ensuite, après la résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une nouvelle provocation et l'ouverture d'un nouveau centre d'enrichissement de l'uranium.
Donc vous considérez ça comme une... Je vous coupe, Clément Terme, quand vous êtes à distance, Azadeh Kian semble ne pas être d'accord avec vous. Je vais poser juste une dernière question à Clément Terme, parce qu'il doit nous quitter dans quelques minutes, Azadeh. Et bon, malgré tout, le discours des Israéliens et des Américains sur le gouvernement iranien et même sur Khamenei ne sont pas des discours de paix et d'apaisement. Je ne renvoie pas les uns et les autres dos à dos. Vous êtes suffisamment grand pour le faire, mais voilà une situation qui n'est pas une situation de paix.
Oui, exactement. En 2008, déjà, il y avait eu cette situation. Et c'était le président George W. Bush, à l'époque, qui avait refusé les bombardements des installations nucléaire de l'Iran par Israël. Donc la position d'Israël est connue depuis plusieurs décennies. Hein. C'est un État absolu ne peut pas avoir l'arme absolue. Simplement, des dirigeants d'un pays auraient pu se rendre compte que au moment du printemps 2025, la position régionale de l'Iran était affaiblie, l'Iran était sur le recul et que le rapport de force militaire n'était pas en faveur de l'Iran. Et ça, c'est calculer les rapports de force, mesurer les rapports de force, fait partie des capacités, des talents qui sont attendus des dirigeants d'un pays.
Des uns et des autres aujourd'hui, Azadeh Kian, je sens que vous voulez réagir.
Bah, d'une part, oui, je voudrais rappeler à Clémentine que ce n'est pas l'Iran qui attaque Israël, c'est Israël qui attaque l'Iran, que Netanyahou ne pense pas aux intérêts nationaux des Israéliens, sinon il n'attaquerait pas l'Iran. Il pense à ses propres intérêts. Il est très fragilisé du fait de ses actes criminels à Gaza. Et donc, avec cette attaque contre l'Iran, effectivement, il essaye de renforcer sa position politique. D'autre part, il a détourné les regards de Gaza maintenant vers l'Iran. Et en même temps, il faut faire une distinction entre les slogans hostiles par rapport à Israël ou les États-Unis de la part des autorités iraniennes que bien évidemment je désavoue et depuis des années d'une part, et d'autre part les frappes israéliennes. Il ne faut pas justifier ces frappes israéliennes, il ne faut pas justifier cette guerre sous prétexte qu'il y a eu des slogans aussi de la part de Khamenei. Ça, on connaît, c'est quelqu'un d'idéologique, mais en même temps, le ministère iranien des Affaires étrangères poursuivait les négociations. Il y a eu cinq séries de négociations quand même.
On va laisser conclure Clément Terme à ce sujet. Clément. Clément Terme était quelque part, ce que l'on peut vous répondre à Azadeh Kian, c'est qu'il y a eu des frappes iraniennes sur Israël et que celles-ci ont délibérément ciblé des civils, avec d'ailleurs des pertes, ce qui fait d'ailleurs un problème supplémentaire aussi bien pour sûr. Benjamin Netanyahou.
Pour moi, je ne fais pas de distinction entre les civils iraniens qui sont tués, les civils israéliens qui sont tués. Je pense que les deux peuples sont pris en étau entre deux régimes qui luttent pour leur propre survie, pas pour les intérêts nationaux. C'est ça que je voulais dire.
On se retrouve à Azadeh Kian dans quelques instants. Vous allez évoquer avec nous cette société iranienne avec ses manifestations en 2022, avec le pouvoir des mollahs, avec des disparitions aussi dans l'appareil d'État, avec donc ces targeted killings, ces assassinats ciblés qui ont été perpétrés par Israël. Clément Terme, vous êtes historien des relations